poursuit un peu la présentation du personnage qui est à multiples facettes, on va dire. Donc, bien sûr, c'est une grande amoureuse, j'en ai parlé. Alors, ses amours, alors là, tout est en contraste, si on peut dire. C'est à la fois sublime, c'est à la fois presque de la mystique amoureuse. Ça touche à la princesse de Clèves, si on peut dire, et à la carte du temps, peut-être, et puis c'est surtout les romantiques. Romantique échevelé, j'ai parlé de Musset, on verra Chopin, Lys, le musicien, donc font partie de ses amants, donc c'est l'époque de c'est cette époque-là du 19e siècle, je cherche un autre personnage, mais un autre écrivain superbe, ça me vient pas, Lamartine, oui, qui incarne aussi ce romantisme. Et alors c'est ça, et puis aussi, il faut bien le dire, c'est la nymphomanie, quoi. Elle a des amants nombreux, de toutes conditions, enfin, multiples. C'est donc un petit peu le côté dévergondé, en même temps que le côté sublime. Donc cette vie riche, mais aussi tumultueuse. Néanmoins, c'est une bonne mère. Elle adore son fils Maurice, sa fille Solange un peu moins. D'ailleurs, sa fille Solange serait peut-être... Il y a des doutes sur sa légitimité, mais bon. Enfin, elle aime ses enfants. C'est encore une fois une bonne mère. C'est aussi une parfaite ménagère, on va dire. Quand elle est à Nohant, c'est un peu la bonne dame de Nohant, voilà. Elle met en œuvre des recettes de cuisine. Je crois qu'elle a écrit des livres de cuisine aussi. Ouais. Elle est très ferrée dans tout ce qui est les travaux d'aiguille, etc. Voilà. Mais c'est aussi une personne cultivée. Elle a été éduquée dans un couvent à Paris, le couvent des Dames Anglaises, où sa grand-mère l'avait placée. Elle y est restée jusqu'à 16 ans à peu près, hein, de 12, 13 à 16 ans. Mais surtout aussi, elle a beaucoup lu alors les classiques, hein, bien sûr, les auteurs de l'Antiquité, grecs et romaines. Elle lisait bien sûr aussi les contemporains, son époque, Chateaubriand, génie du christianisme, enfin, une grande lectrice très cultivée, voilà. Donc c'est toute cette... Et puis alors, il y a un côté mystique aussi chez elle, hein, politique et mystique. Elle sera liée à l'amener. Félicité de Lamennais, qui est un prêtre, qui était devenu une espèce de prêtre révolutionnaire, qui avait fini par quitter les ordres. C'était un prêtre très social, on va dire, hein, voilà. Et donc elle était admirative, hein, et elle soutenait Lamennais, voilà. On y reviendra dans notre prochaine émission sur ce, comment dire, plus de précision sur la biographie. Et notamment tous ces hommes prestigieux qui vont jalonner sa vie. Hein. Alors je vais aujourd'hui vous parler plus spécialement de cet épisode un peu très, qui est un point d'orgue un petit peu, si on peut dire. Il y a eu donc avec Musset ce fameux voyage à Venise, et puis il y aura aussi avec Chopin, par exemple, il y aura un voyage avec Chopin à Majorque, enfin, dans les Baléares, qui sera aussi entre paradis et enfer, voilà. Donc, ça se situe, cet épisode, en 1833. Alors, je me réfère à une revue historique qui n'existe plus, des années 70, et c'est André Mauroy, parce qu'André Mauroy aussi écrit beaucoup sur Georges Sand, hein, voilà, qui raconte cet épisode. Et le reste de ma chronique, je me suis inspiré aussi de la biographie de Jean Chalon, cher Georges Sand, hein, voilà. On se situe vers 1833, donc Aurore Dupin, je l'ai présenté, Baronne du Devant va rencontrer Alfred de Musset. Alors, à l'époque, ils se sont connus par l'intermédiaire de Sainte-Beuve, qui est un peu oublié aujourd'hui, c'était un critique, un romancier de l'époque. Hein. Et ils se rencontrent donc en cette année 1833. Musset, c'est vraiment dans le début sa carrière, il est très brillant, il jette ses premiers feux, il a 23 ans, hein. Et Georges a 29 ans, elle est plus connue, elle est une romancière installée. Alors elle a publié Indiana, elle a publié Lélia, Donc, elle est déjà célèbre, et puis par son allure, par peut-être ses provocations, je l'ai dit, son vêtement masculin, sa pipe. Alors, en tant qu'amoureuse, je l'ai dit, Colette avait eu des relations lesbiennes, donc George Sand, semble-t-il, l'a eu aussi, mais c'est très marginal, avec Marie Dorval, qui était la maîtresse de Baudelaire. Il y a une liaison, mais c'était plutôt peut-être là aussi pour, on va dire, pour se faire remarquer du tout Paris, plutôt. Hein. Ça faisait partie, semble-t-il, plutôt des provocations, parce qu'elle aimait les hommes, alors, passionnément. Voilà. Alors Musset, lui, eh bien, je l'ai dit, il a écrit... Il est aussi, c'est un jeune dandy. Il a publié ses contes d'Espagne et d'Italie. Et à quoi rêvent les jeunes filles, la coupe aux lèvres, enfin, etc. Les caprices de Marianne. Voilà. Donc, Fantasio, enfin, il débute, mais il est très très brillant. C'est un génie aussi de la littérature. C'est un génie du. C'est un grand poète. Hein. Et donc. Il est aussi dans son look, c'est le dandy. Donc il a le chapeau haut de forme, incliné sur l'oreille, un pantalon collant, il a des bleus ciel, enfin voilà. C'est une sorte de chérubin quoi, qui est adoré des femmes. Hein, voilà. Et donc ils sont présentés par... semble-t-il, c'est Sainte-Beuve hein, qui les présente. Alors là, il y aura... il est libertin aussi quand même, Musset, l'alcool, c'est aussi un dévergondé, hein. Là aussi ça touche ça monte au septième ciel et ça descend au septième dessous, ça c'est du ciel à l'enfer, hein, un peu comme elle, voilà. Il a un côté page tendre, romantique, mais aussi un côté franchement dévergondé, hein, voilà. Un côté candide et un côté cynique, voilà. C'est le contraste, c'est la dualité, la dichotomie, on va dire. Et donc, il se rencontre. Alors, il y aura, initialement, ils vont se très, très rapidement vivre ensemble, hein, bien que, au départ, ça ne soit pas peut-être le coup de foudre. Donc, il y a une première rencontre à un dîner de la revue des Deux Mondes, où ils sont voisins de table. Alors, elle n'est pas très spirituelle, elle est très intelligente, très brillante aussi, elle a 28 ans, mais elle est plutôt silencieuse en société. Alors, lui se met en frais, elle séduit par son regard, pas forcément très belle, mais elle a un look, un charisme, voilà, un regard, les yeux un peu... comment dire, lourd, qui se pose sur son interlocuteur, attentif, voilà. Elle est assez un peu statique peut-être aussi, voilà. Et donc, il la séduit, il la fait rire, voilà. Et elle, commence, il y a un échange, une espèce de marivaudage, voilà. Et ils vont bientôt évoquer des projets en commun, des projets d'escapade romantique. Elle l'appelle mon gamin, voilà. Il l'appelle mon vieux Georges. Et donc, en fait, très vite, ils vont se mettre ensemble. Il y a une grande liberté, je le sais, de l'un et de l'autre, qui est malaqué. Donc, ça sera une vie à deux, au début très, très jubilatoire. Voilà. Et donc, ils sont début l'un et l'autre. Enfin, elle est à la maturité déjà de sa carrière, enfin, qui sera très longue. Et lui, il brille il commence. Il est aussi une idole du tout Paris. Voilà. Et donc, 19 quai Malaquais, je l'ai dit, ils s'installent ensemble. C'est une lune de miel qui va durer quelques semaines. Mais ça va être très vite tourmenté. Leur liaison va être tumultueuse et tourmentée parce que les deux sont, des personnages d'exception. Et Musset, notamment, on va le voir, est un jeune homme, je dis, qui a des crises, qui a des nerveusement fragiles. Et donc, ils vont faire un séjour à Fontainebleau, avant l'Italie. Hein. Fontainebleau. Alors là, il y aura l'épisode du rocher de Franchard, hein, voilà, près d'un cimetière. Alors, il se balade la nuit, voilà, c'est des des romantiques, enfin, il se balade la nuit, il rêve, et soudain il a une hallucination où il voit son propre spectre qui se déplace dans le cimetière, voilà. C'est une espèce de moment de folie, d'angoisse, voilà. Et ils vont décider, là, de ce voyage en Italie. Donc c'est un rêve, mais on va voir que c'est un rêve qui va se fracasser sur la réalité. Alors, parce qu'elle est plutôt réservée, bosseuse, il lui faut ses 8 heures, elle travaille la nuit. C'est une staccanoviste, un petit peu, de la plume, hein, parce que elle écrit, donc elle passe ses nuits à écrire. Et lui, il est très léger, il est irrégulier, on peut dire, hein. C'est des fulgurances, c'est un génie, mais un génie qui n'est pas du tout réglé. Le voyage, c'est donc, ils vont de Gênes, Florence, et au début du voyage, je crois qu'ils prennent le bateau à Marseille, je sais pas, et ils rencontrent, ils ont comme voisin, un certain Henri Bell, c'est-à-dire Stendhal, qui est consul en Italie et qui va prendre son poste, je crois, à Civita Vecchia. Voilà. Donc, Gênes, Florence, alors il y aura déjà les premières heures, parce que d'abord elle est malade, hein, elle n'est pas en forme, et alors lui, il est pas, c'est pas du tout l'amant très dévoué, on va dire, qui soigne, et qui, donc il sort, il fait un peu la vie, voilà, pendant ce temps. Et puis, à Venise, donc il sort, il va voir les filles, les beuveries, voilà. Et à Venise, il s'installe à l'hôtel d'Agnelli, et donc il lui fait une révélation, alors là, sidérante. Il lui déclare: je m'étais trompé, je te demande pardon, je ne t'aime pas. Donc, alors là, c'est la douche froide, on va dire. Ils vont faire bientôt chambres séparées. Alors lui, ce sera les débauches nocturnes, les bouges de Venise, pendant qu'elle, eh bien, la nuit, elle est plutôt sage, bien qu'elle elle aussi elle ait beaucoup d'aventures, on le verra. Mais à ce moment-là, elle travaille beaucoup, elle travaille à ses romans, bien qu'en voyage. Voilà. Et donc lui, par exemple, il rentre en sang. Mais elle va le soigner, elle va jouer un petit peu le rôle de mère. Elle, eh bien, elle a 10 ans de plus, ou 5 ans de plus que lui, quoi. Et donc, un jour, un drame va survenir. On a vu cet épisode du cimetière, hein, à Fontainebleau, Rocher de Franchère. Donc, il aura des hallucinations. Ouais. Il a, c'est presque du délirium, hein, il casse tout. Enfin. Et donc, elle se transforme en infirmière, elle se transforme en un peu le rôle de mère, et de garde-malade un petit peu. Et elle appelle un jeune médecin, Pietro Pagello, qui a à peu près 28 ans, alors qu'elle au chevet, hein, du malade. Enfin. Donc elle lui raconte notamment cette nuit, je l'ai dit, de Franchard, ses hallucinations. Et donc, ils vont être côte à côte au chevet du malade, hein, au chevet d'Alfred, qui est vraiment puis l'alcool, probablement la drogue, donc voilà. Et il est comment dire, à côté de ses pompes, hein, voilà. Donc elle déclare à propos de lui au jeune médecin: c'est la personne que j'aime le plus au monde, voilà. Et donc bientôt Pagello va s'intéresser à cette jeune femme mystérieuse, voilà. Une passion va naître chez Pagello, le jeune médecin. Donc ils sont au chevet du malade, et ça va durer 3 semaines, voilà. Donc il y aura des moments de délire, des moments de fureur, et puis d'abattement, voilà. Psychiatriquement, il va pas, quoi, il va pas bien du tout. Mais bon, elle s'occupe de lui, elle est auprès de lui, c'est un dévouement total. Et puis ce qui devait arriver arriva, si on peut dire. Eh bien, je l'ai dit, Pagello est attiré parce qu'elle est célèbre aussi. Il est fasciné par le personnage et par son mystère, voilà. Et donc lui, c'est un modeste médecin, mais bon, eh bien, un soir, il va lui déclarer, tout au moins, elle sent qu'elle est aimée de ce jeune homme. Elle est flattée. Il n'est pas du tout, c'est le contraire de Musset. Il est très solide. C'est un garçon un peu avec un peu d'embonpoint, vigoureux. Il a bien les pieds sur la terre. Voilà. C'est le contraire d'un romantique. Mais bon, elle a compris qu'il l'aimait. Mais il la vouvoie, il la traite avec respect. Alors elle va rédiger, comme ça, spontanément, on va dire, improviser, une trentaine de feuillets. Elle met ça sous enveloppe en sa présence. Et lui, sur l'enveloppe, elle met « Au stupide Pagello ». Alors je vous donnerai la citation. Et donc elle lui déclare son amour. Voilà. Et donc on va... voir cette suite de cette aventure de Venise, cette aventure qui va devenir une aventure à trois. Ça aurait pu être Juliette Jim, hein, comme le film, vous savez, avec Jeanne Moreau de François Truffaut, mais ça ne sera pas le cas. Mais on est très près de ça, ouais, parce qu'on verra que les deux amants, hein, Musset et Pagello, en fait, eux aussi, ils s'aiment respectivement. C'est vraiment presque un amour à trois. Il va survenir. Donc nous nous retrouvons pour la suite de ces aventures romantiques, de ces fameux amants de Venise qui font partie de l'histoire de la littérature. Nous les retrouvons après notre intermède musical.